Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès, aujourd'hui Sébastien Rocheron, qui est à la technique de l'émission, et à la une, eh bien un nom, celui de Francis Holm, dont le procès va s'ouvrir devant la cour d'assises de Moselle à la fin de ce mois, le 31 mars, c'est prévu pour durer, je crois, une quinzaine de jours, voire plus, même peut-être deux mois même, non. Alors, Emmanuel Charlot, qui est à côté de moi, qui vient d'entrer, me fait signe que je me trompe. Bonjour Emmanuel Charlot.
Bonjour.
Oui, vous disiez le procès va durer.
Le procès va durer du 31 mars au 24 avril, trois semaines et demie.
Soit trois semaines et demie. Et vous le savez d'autant mieux que vous allez être appelé à témoigner à la barre de ce procès. Ceux qui ne vous connaissent pas doivent savoir que vous êtes journaliste d'investigation, que vous êtes impliqué depuis de longues années dans cette affaire qu'on a appelée d'abord Dils, puis Dils Holm, et maintenant peut-être Holm. Avec un autre nom, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Vous venez de publier aux éditions Flammarion les résultats de votre contre-enquête, l'affaire Dils Holm, un livre qui va et qui a relancé l'affaire, il faut le dire, puisque une partie de ce livre avait été versée au dossier de l'instruction il y a quelques années. Alors, ce que je voulais dire, donc, Francis Holm va être face à ses juges accusé du meurtre des deux petits-enfants dont je parlais tout à l'heure, Alexandre Bécriche et Cyril Bénin. Ils avaient 8 ans le 28 septembre 1986 quand on a trouvé leur corps vers 20h, donc en fin de journée, allongés sur le dos près d'une voie de manœuvre de la SNCF, tout près de leur domicile à Montigny-lès-Metz. Ils ont eu le crâne fracassé à un coup de pierre, une très grande violence dans l'agression. Le pantalon de l'un des garçonnets était baissé. Je le signale, non pas par plaisir macabre, mais parce que c'est très important certainement pour la suite des événements et pour les accusations qui pèsent contre Francis Holm. La nature des blessures, le fait que les visages des enfants aient été rendus quasiment méconnaissables, marque donc est une marque de la très très grande violence de cet événement. Et le lendemain, sur RTL, Jean-Michel Bézina rappelait les circonstances de la découverte du drame. C'était dans RTL Matin.
Alexandre et Cyril ont été victimes des agissements d'un monstre. Comment en effet appeler autrement l'individu qui, dimanche après-midi, a lapidé les deux petits garçons avec quatre grosses pierres? Alexandre et Cyril, les policiers en sont persuadés, ont suivi leur assassin. Ils avaient en effet laissé leur petit vélo au bas du talus au sommet duquel on a retrouvé leur corps sur le ballast d'une ligne de service de la SNCF. Les policiers ont fort peu d'indices. Ils savent que le double meurtre a eu lieu entre 17h30 et 19h30, que les deux enfants étaient plutôt sauvages, qu'ils ne suivaient pas la première personne rencontrée. Mais à 8 ans, l'âge d'Alexandre et de Cyril, la possibilité d'escalader un talus abrupt, d'aller voir passer un train, peut fort bien faire oublier sa timidité. Dès que le brouillard se sera dissipé, les policiers vont retourner sur les lieux du crime à Montigny-lès-Metz à la recherche d'indices, de témoins. Il serait en effet bien étonnant qu'un dimanche après-midi, personne n'ait rien aperçu.
Alors je citais Emmanuel Charlot le titre de ce livre, Affaire Dils Holm, la contre-enquête qui paraît chez Flammarion. Il faut savoir aussi que demain soir sera diffusé à 20h45 sur France 2 dans Envoyé spécial un reportage que vous signez et qui reprend le contexte de cette histoire et qui met en valeur un certain nombre d'éléments nouveaux qui seront certainement au cœur du prochain procès. Est-ce qu'on peut voir ensemble très rapidement comment dans cette affaire on est passé de Dils à Holm?
On est passé de Patrick Dils à Francis Holm par Francis Holm lui-même, en fait. C'est assez troublant, mais c'est lui qui fait des déclarations spontanées sur sa présence sur les lieux du meurtre le jour des faits au gendarme Jean-François Abgral,
que nous aurons tout à l'heure dans l'émission,
nous aurons au téléphone, et qui le fait spontanément et dans une toute autre affaire. Donc et à ce moment-là, le gendarme Abgral tente de faire un lien parce qu'il a le sentiment d'avoir déjà affaire à un tueur en série, mais il n'arrive pas à le faire le lien parce que à l'époque l'époque, en 1992, le crime de Montigny-lès-Metz est jugé, donc retiré des fichiers informatiques, donc voilà. Il ne fait pas le lien.
Donc aucune chance pour un gendarme, en mettant les caractéristiques données par Francis Holmes dans les logiciels de scène de crime, de retrouver l'affaire. Le livre que vous publiez est préfacé par Madame Bénin, la mère de l'un des deux enfants assassinés ce jour-là, et on peut dire que c'est grâce à elle en fait que ce procès va avoir lieu.
Ah ben c'est que grâce à elle que ce procès va avoir lieu, puisque en 2007, un juge d'instruction, Monsieur Montfort à Metz, va rendre une ordonnance de non-lieu en faveur de Francis Holmes. Et les familles des victimes ont 10 jours pour faire appel. Si elles ne font pas appel, l'affaire est classée à jamais. Et Madame Bénin, en accord avec son avocat, Maître Dominique Beaupetit, ne va pas hésiter une seule seconde à faire appel, parce qu'elle veut savoir. C'est sa raison de vivre. Madame Bénin, elle est seule. Elle vit dans un deux pièces, toute seule. Son mari l'a quittée à cause de cette affaire. Elle a des rapports un petit peu distendus avec ses autres enfants. Elle est seule, c'est sa raison de vivre. Et elle nous dit toujours, moi je veux savoir qui a tué mon Cyril. Mmh. Donc elle a fait appel immédiatement et elle a porté à bout de bras cette affaire depuis 2007 jusqu'à maintenant.
Alors vous avez rencontré à peu près tous les acteurs de cette affaire, les familles, des témoins visuels dont on reparlera, dont les témoignages n'avaient pas vraiment été pris en compte jusqu'à présent par la justice. Vous avez vu des enquêteurs, également des magistrats, et le moindre des choses, c'est peut-être de s'étonner de ces années qu'a pris la justice pour prendre en compte ces témoignages.
C'est une affaire qui s'étale sur 28 ans, donc oui, on peut s'étonner de ce que la justice ait mis autant de temps. C'est vrai que au départ, Francis Holmes n'est pas à la décharge des enquêteurs et des magistrats quand même. Francis Holmes, en 86, au moment des faits, est inconnu des services de police. Mmh. Voilà. Donc, pour faire un lien direct à ce moment-là avec Francis Holmes, c'est compliqué. Sauf que c'est vrai qu'après, il y a eu un moment d'inertie. À partir du moment où Patrick Dill s'était acquitté en 2002, tout portait à croire, et les proches du dossier le disaient eux-mêmes, que Francis Holmes allait être mis en examen. Parce que 80% des charges qui pèsent aujourd'hui contre lui existaient déjà en 2002. Voilà. Donc on vient de perdre 11 ans. Oui. 11 ans pourquoi ? Parce que à Metz, en 2002, il y avait encore beaucoup de magistrats qui étaient convaincus que Patrick Dill c'était le coupable.
Après le verdict d'acquittement.
Après le verdict d'acquittement rendu au nom du peuple français. Mmh. Et n'ont pas été d'un enthousiasme débordant pour travailler sur la piste de Francis Holmes. Je le dirais comme ça et je serais gentil. Il y a une ordonnance de non-lieu qui va être prononcée en sa faveur en 2007. Pour charge insuffisante. Et à partir de 2008-2009, on sent que ça tourne un peu à Metz. Les magistrats ont changé, c'était plus les mêmes qu'à l'époque de l'affaire Dills. Certains sont décédés, d'autres sont partis en retraite, d'autres ont été mutés. Donc après, on sent que ça bascule un peu et que on a envie de travailler sur le dossier et de sortir l'affaire. Comme
on dit. Alors on va voir dans un instant, après une première pause, ce qu'il y a dans le dossier, c'est-à-dire passer en revue les indices pour le moins troublants qui sont à charge pour Francis Holmes. Et on va commencer dans un instant parler avec Jean-François Abgral, dont vous citiez le nom il y a quelques instants. C'est lui, effectivement, qui a été le premier, et qui est certainement celui qui connaît le mieux Francis Holmes, qui était le premier à penser qu'il était face à un tueur en série. Et après ce que vous avez raconté, c'est-à-dire un récit de Francis Holmes qui semblait faire allusion vraiment très précise au meurtre de Montigny-lès-Metz, il avait écrit à la justice pour les avertir de ses doutes ou de ses certitudes. A tout de suite.
L'heure du crime sur RTL.
Francis Holmes face à ses juges, ça va se passer à la fin du mois et pour plus de 3 semaines donc devant la cour d'assises de Moselle. On parle maintenant du dossier, de ce qu'il contient, des raisons pour lesquelles en fait la justice a finalement décidé de déférer Francis Holmes devant une cour d'assises. Alors on parle évidemment de tout cela avec Emmanuel Charlot qui a réalisé cette contre-enquête enquête et qui va, il nous l'a confirmé, témoigner au cours du procès. Mais je voudrais qu'on prenne tout de suite à l'antenne Jean-François Abgral, enquêteur privé maintenant, ancien gendarme. Bonjour Jean-François Abgral.
Bonjour.
Et vous témoignez d'ailleurs également dans le film qui sera diffusé demain dans Envoyé spécial devant les caméras donc d'Emmanuel Charlot. Vous aviez averti la justice à quelle époque des doutes ou des certitudes que vous aviez que Holm était impliqué dans l'affaire de Montigny-lès-Metz.
En fait, moi j'ai rédigé un procès-verbal en octobre 97. Simplement parce que j'ai reçu un courrier à l'époque d'une stagiaire avocate, et est avocate aujourd'hui à Paris, Estelle Dubois, oui, qui avait étudié le dossier de Patrick Dils et qui me résumait l'essai de Montigny-lès-Metz dans son courrier en disant, voilà, écoutez, vous connaissez bien monsieur Holm et son parcours, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un lien, ou est-ce que vous ne pourrez pas me dire s'il était présent dans la région de Montigny au moment de ce fait-là, oui, parce que moi je défends les intérêts d'un client, Patrick Dils, qui nie l'essai. Et en fait, ce petit résumé-là, qu'elle me fait dans ce courrier, ouais, n'est ni plus ni moins qu'une histoire que Francis Holm m'a racontée très clairement. C'est l'affaire de Montigny.
Ouais. Alors ça se passe dans le cadre du premier meurtre, je crois, de Francis Holm sur la plage du Moulin Blanc. Enfin, le premier meurtre avoué, qu'il vous a avoué. Un meurtre qui a eu lieu non loin de Brest, sur la plage du Moulin Blanc.
C'est ça. En fait, non, il n'avoue pas, Francis Holm, il n'avoue pas. Il vous explique une situation, il est témoin, ou il est toujours présent, mais c'est pas lui. Ou alors, quand il a trop dit de choses, il dit, je me rappelle plus, mais enfin, je me rappelle plus, j'étais présent, mais avant, il vous a décrit quand même la scène de crime et toutes les actions qui s'y sont produites. Après qu'il ait été interpellé pour le meurtre de Brest, je vais le dire comme ça, le meurtre de Brest, moi, je suis allé le voir en maison d'arrêt, puisqu'il disait qu'à Brest, c'était un pépin. Le meurtre était un pépin, et qu'il avait eu d'autres pépins sur son parcours.
D'accord.
Donc l'objet pour moi, c'était de savoir où il était passé pour alerter les services de police et gendarmerie.
Bien sûr. Hein.
Donc j'avais fait j'étais allé le voir et pour lui demander où il était passé. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a expliqué ce que j'ai qualifié moi de petites histoires. Il a commencé à me parler de choses et ce sont ni plus ni moins que des meurtres qu'il avait commis. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, puisque je ne connais pas encore la personnalité de Holm telle que je la connais aujourd'hui, ou qu'on la connaît tous. Donc je ne sais pas, par exemple, hein, il me dit, j'ai tremblé un arbre, cet arbre est devenu mou, c'était un jeune. Ouais. J'ai laissé le corps dans les herbes folles, à 12 km de la mer, c'était avant Brest, donc ça me fixe une temporalité, avant octobre 89. Ouais. Voilà comment il communique. Ouais.
Et ça, c'est, il vous parle en fait du meurtre du petit Joris Viville, quoi.
Voilà, du petit Viville Joris. Et je me réalise que ce sont des faits importants, parce qu'il le dit avec une intensité, avec un regard extrêmement perçant. Enfin, il distribue ses mots, il n'est pas dans une discussion ouverte. Mmh. Et il y a notamment le fait qu'il est passé, il explique qu'il est passé dans l'est de la France à vélo un jour, et qu'à droite, il y a un talus. Donc, il faut une description précise de ce qu'il de l'endroit. Quoi. Mmh. Et qu'en haut, il y a des voies de chemin de fer, qu'il y a des enfants en haut qui jettent des pierres, alors qu'ils passent à vélo, qu'à gauche, il y a des pavillons, qu'au bout de cette rue droite, il y a un stop. À droite, il y a des poubelles et un pont. Mmh. Et il part dans la direction opposée du pont. Puis il revient dans l'idée de corriger les enfants. Puis après, il va monter sur les talus et voir les enfants morts près de wagon.
Et il vous dit, voilà, j'arrive, il y a des pompiers, il y a les secours. Et je crois qu'il vous dit même qu'il se penche sur un des cadavres, qu'il le retourne. Non, j'ai cru comprendre
non,
ça.
Non, c'est pas moi qui dis ça. Ouais. Après, il va compléter ça dans les compléments d'informations judiciaires qui vont être
d'accord.
suite à l'alerte que j'ai donnée.
D'accord. Et donc vous, sur la main, après ce que vous venez de raconter, évidemment, vous envoyez ce procès-verbal donc à la justice pour parce que vous pensez que ça peut déclencher quand même des recherches.
Alors, à l'époque,
une enquête.
À l'époque, moi, j'ai toutes ces histoires, il y en a 6 ou 7, toutes ces histoires ont un épilogue judiciaire. Je peux les relier à des faits qui ont été commis là où il est passé. Donc, son itinéraire, sauf celle-là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, elle n'est plus dans les bases des données.
Oui, c'est ce que disait Emmanuel Charlot il y a un petit instant, oui, absolument.
Elle n'existe plus. Donc, moi, je ne fais pas de lien. Je me dis, tiens, et je ne suis pas tout seul à le penser, parce qu'on a créé une cellule d'enquête à l'époque. Hein.
Ouais.
Et on essaie de voir en quoi ça peut correspondre à des faits là où il a été commis. Par exemple, pour le petit Joris, qui est un enfant qui a été tué à Draguignan, on cherche des voies de chemin de fer, parce qu'on sait que le petit Joris a été enlevé et qu'il y a eu deux scènes complémentaires de crime. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il s'est échappé, un endroit où il était échappé et tué, et un endroit où il était abandonné. Donc on cherche les poubelles, les ponts, on se dit ça doit peut-être avoir un lien avec ça. Ouais. Et finalement, on ne trouve pas, parce que c'est pas la même affaire.
Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, le Holm emploie toujours des chemins détournés pour avouer, mais là, il faut mettre des guillemets. Emmanuel Charlot, une réaction, je vais voir réagir à ce qu'on est en train de dire.
Une réaction,
c'est la signature de Holm, quoi.
Bah déjà, une réaction, je voudrais rendre un hommage à Jean-François Abgral, parce que s'il n'est pas là, Jean-François Abgral, l'affaire de Montigny-lès-Metz, comme d'autres, ne sortent pas. Je rappelle que Francis Holm a été condamné pour 9 meurtres, et que avec le travail remarquable de Jean-François Abgral et sa rigueur, il est déjà condamné pour 9 meurtres, peut-être les 10 et 11e à la fin du mois de mars. Et du mois d'avril, pardon. Et je réagissais, oui, parce que il en parlera mieux que moi, il le connaît mieux que moi. Mais sa méthode, c'est de mélanger différents éléments de différents meurtres, fois pour brouiller les pistes. Enfin, ça, je peux laisser la parole à Jean-François Abgral.
Il l'exprimera mieux que moi. En fait. Ouais, mais il est comme ça, Jean-François Abgral, en fait.
C'est ça. Il vous raconte pas une histoire dans sa totalité. Il va vous expliquer des choses de plus en plus précises lorsqu'il a compris que vous êtes allé vous-même sur place.
D'accord.
Une fois qu'il a vu que vous aviez identifié le crime dont il parle, il va développer. Mais il va développer jusqu'en gros 80% de l'histoire. Et les 20% qu'il manque, il sait pas mentir. Il transpose.
Il parle toujours des faits, Jean-François Abgral, comme s'il en avait été spectateur, mais pas acteur, hein.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Il a eu la malchance d'arriver au moment où le crime s'était passé, où il a croisé l'assassin qui lui a raconté l'affaire. Et donc, du coup, il est allé voir. C'est pour ça qu'on peut, nous le localiser sur place, parce qu'à chaque fois, il va donner des informations qui vont nous permettre de matérialiser sa présence. Hein. Et puis, après, on a compris, une fois qu'on a compris ça, nous, on avait mis en place une sorte de protocole d'audition. C'est-à-dire qu'on faisait, Francis Holm dessinait, au-delà de son discours, un croquis. Ouais. Donc, il nous dessinait un croquis qui sont plus de l'ordre d'un plan détaillé des lieux. C'est un croquis, hein, c'est très précis, c'est très scolaire.
Ouais.
Et dans le croquis dans lequel il se met en scène. À un moment, il fait une petite proie, il met moi.
Ouais.
Donc sa position de spectateur. Et du moment où il a écrit moi, souvent il parle au présent, il bascule de temporalité. Il n'est plus dans la description passée, il est dans l'action.
Ouais.
Et puis, quand il est présent sur son croquis, et qu'on va vers le crime commis, il s'arrête et dit voilà, moi je ne sais plus. Ouais. En tout cas, on a suffisamment d'informations souvent pour identifier les témoins, des complices, et on trouve des éléments matériels qui nous manquent.
Si vous me permettez de réagir par rapport à ce que dit Jean-François Abgral, dans l'affaire de Montigny-lès-Metz, il fait 3 croquis d'une précision remarquable, dont un qui est tout est là. Hein. Il y a la benne, effectivement, il y a la croix avec moi. Il dit moi marcher, donc il a déposé son vélo dans le quartier, mais il en a fait 3 d'une précision, mais remarquable. Moi, je suis incapable de faire les mêmes croquis, alors que je connais très bien les lieux. Hein.
Alors, on va faire une pause. On vous retrouve, hein, Jean-François Abgral, dans un instant, avec Emmanuel Charlot, parce que là, on vient de parler de ce qui n'est pas un détail, mais c'est que Holm avait dit, j'étais à vélo. Or, dans le cadre de votre contre-enquête, vous avez pu rencontrer le témoin qui avait 9 ans à l'époque et qui a vu passer à une heure très proche où on situe le meurtre des enfants, qui a vu passer un homme, un inconnu à l'époque pour lui, mais qu'il a reconnu ultérieurement comme étant Francis Holm à vélo.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et on retrouve Emmanuel Charlot, sa ou ses contre-enquêtes, puisque l'affaire d'Ilse Holm, que vous publiez aux éditions Flammarion, Emmanuel Charlot, est une enquête revue et augmentée par rapport à la première mouture que vous aviez publiée il y a quelques années.
Oui, c'est-à-dire qu'on a publié déjà un ouvrage qui est sorti en 2008, et puis en accord avec Flammarion, on a le dossier a continué à évoluer, on a décidé de le réactualiser et de avec les nouvelles informations qu'on a pu recueillir, et donc très largement augmenté d'environ 200 pages. On a épuré un peu des longueurs, une centaine de pages dans la première mouture, et puis on a réaugmenté de 200 pages avec de nouvelles informations.
Voilà, alors on va parler de ces nouvelles informations, et tout ce qu'on va dire maintenant va être certainement au cœur du procès qui va s'ouvrir à la fin du mois. D'abord, parlons d'un témoignage qui n'a pas été pris en compte vraiment. Enfin, vous allez nous dire dans quel cadre il a été ou pas pris en compte. Et on va entendre donc l'auteur de ce témoignage, puisque il est diffusé dans le film qui va être montré demain, donc dans Envoyé spécial. L'homme s'appelle David Ehrlich. À l'époque, il avait 9 ans et il se trouvait sur les abords de la ligne de chemin de fer et il se souvient, écoutez-le, dans son témoignage, il se souvient avoir croisé Francis Saulme ce jour-là à 17h30.
Je me souviens, c'était un dimanche où on changeait d'heure là, et du coup je cueillais des mûres pour les revendre dans la petite épicerie de mon quartier là. Il devait être 17h30 et j'ai vu un vieux en vélo avec une tête bizarre, avec un vélo course, et les vieux vélos d'avant avec le guidon arrondi. Et il était habillé en t-shirt du FC Metz là, avec le sponsor Solac sur le t-shirt. Et un jour, je vois un magazine avec la tête du Francis Saulme dessus. Et dans ma tête, tout de suite, je l'ai vu sur le vélo.
Là, Emmanuel Charlot, ce témoignage, il l'avait donné en justice en 2002, au cours du procès en révision de Patrick Diels. Mm-hmm. Ça n'avait pas donné lieu à des bouleversements à l'époque concernant Francis Saulme.
Alors moi, j'étais pas là le jour du témoignage de David Ehrlich. Ce que je peux dire concernant ce témoignage, c'est que pour moi, il est absolument fiable parce que en fait, je crois qu'il lui était un peu reproché, y compris par les derniers magistrats, d'avoir varié dans ses déclarations, mais il a été réinterrogé que 15 ans plus tard. Alors effectivement, il y a deux trois petites choses qui varient, mais voilà. Moi, ce qui me paraît important, c'est sa déclaration de l'époque. Ouais. Et sa déclaration de l'époque, elle est d'une précision remarquable, c'est-à-dire qu'il décrit la tenue vestimentaire que Francis Saulme portait ce jour-là.
Et on a retrouvé des photos que vous montrez dans votre reportage avec Francis Saulme avec ce t-shirt du FC Metz.
Du CC Metz, cycloclub de Metz, blanc et grenat. Ouais. Il va décrire très précisément sa tenue vestimentaire, que Francis Saulme va lui-même confirmer à de nombreuses reprises. Ouais. Et puis, il va avoir un comportement très agité parce que l'homme en question, qu'il ne connaît pas à l'époque, puisqu'il n'est pas connu des services de police, lui a fait peur. Il parle d'un vieux. Ouais. Francis Saulme a 27 ans à l'époque, mais c'est un homme un peu sans âge et il fait vieux pour un gamin de 9 ans.
Il a été tellement impressionné qu'il va demander, il va coucher avec un couteau sous son oreiller pendant plusieurs jours et sa mère a témoigné de.
Et tout ça va être confirmé par sa maman et par une voisine. Donc, si vous voulez, pour moi, la déclaration essentielle, c'est celle de l'époque des faits. Oui, et pour moi, j'ai rencontré David Ehrlich, ce n'est pas un fabulateur, ce qu'il raconte est vrai. Et son témoignage est essentiel puisqu'il permet d'acter le fait que Francis Saulme rentre dans le quartier à 17h30. Voilà.
Alors, autre témoignage dont les auteurs attendront un certain temps, on va en reparler après, pour en faire part. Ça se passe le jour du double meurtre. Émile et son beau-frère se trouvent sur les bords de la Moselle pour une partie de pêche. Et c'est là qu'ils ont croisé Francis Saulme, qu'ils connaissent. Hein, on y reviendra aussi. Et Francis Saulme, ce qui les frappe, c'est qu'il il a le visage en sang et qu'il paraît prostré. Écoutez le témoignage de cet homme.
Voilà l'endroit où l'on pêchait avec mon beau-frère. Et ici, on avait donc la 4L camionnette qui était stationnée là. Donc là, ça faisait un léger virage. Et le chemin partait là-bas pour rejoindre les HLM là-bas. Et dans le virage, j'ai vu Francis Saulme, ici, à cet endroit, accroupi dans l'herbe. Et j'ai dit à mon beau-frère de s'arrêter. Je suis descendu de la voiture, j'ai été le voir. Et je lui ai demandé ce qu'il avait. J'ai dit, tiens, Francis, qu'est-ce que t'as ? Et il m'a dit qu'il était tombé dans les cailloux, dans le chemin de cailloux qui est là-bas. Il avait le visage en sang, il n'était pas dans son état normal. Et de là, je lui ai dit, bon, écoute, c'est pas grave, on va te charger dans la voiture et on te ramène chez ta grand-mère à Vaux. Le lendemain, quand ça a paru dans le journal, l'histoire des deux gamins tués à Montigny, on n'a pas fait le rapprochement parce que Holm n'était pas connu des services de police. Et puis c'était un gars tout simple, comme vous et moi, et je n'ai jamais supposé qu'il avait à voir dans cette affaire.
Alors en fait, ils se sont signalés après officiellement, à quelle occasion ces deux personnes?
Alors ils se sont signalés au départ, comme dit Émile Daville, la personne qu'on vient d'entendre, au départ, Holm, il dit, un gars comme vous et moi, peut-être pas, mais en tout cas à l'époque, il n'est pas connu des services de police, c'est un voisin, lambda, donc il le croit quand Francis Holm leur dit qu'il est tombé dans les cailloux, sur la voie de chemin de fer. Maintenant, après, pendant 15 ans, ils vont se taire, et ils vont se taire, déjà au départ parce qu'il n'est pas connu des services de police, mais après parce que la femme, la sœur d'Émile David, qui est aussi la femme de l'autre pêcheur, va un petit peu mettre la pression en leur disant ne témoignez pas, vous allez avoir, on va avoir des embêtements avec la police, la presse, etc. Et ils pensaient que Patrick Dils allait être acquitté à Reims, donc au cours de ce deuxième procès, contre toute attente, il est recondamné à 25 ans.
Et là, ils se décident
d'y aller, malgré les réticences de cette dame qui est la sœur de l'un et la femme de l'autre.
Alors, il y a évidemment d'autres éléments à charge, mais ça, je renvoie tout le monde à votre livre et à la diffusion dans Envoyé spécial demain de votre reportage. Un co-détenu qui a témoigné en disant que Holmes lui avait fait la confidence qu'il avait bien tué les deux enfants.
En donnant des détails qu'il ne peut pas inventer, en plus, ce co-détenu, parce qu'il faut être toujours prudent vis-à-vis des témoignages de co-détenus. Hein. Ouais. Mais là, il donne des détails qu'il ne pouvait pas inventer.
Et notamment le fait qu'il a baissé le pantalon d'un enfant, c'est pour ça que je l'ai
dit au début de l'émission. D'un enfant, et dit du plus grand.
Le plus grand, voilà. Donc, ce qu'il ne pouvait pas savoir, ça n'est jamais paru dans la presse. Il a également donné des éléments de réflexion sur ses mobiles, mais ça, on y viendra plus tard. Et puis, il faut dire aussi, puisque les collègues de Jean-François Abgral ont employé l'expression de quasi-signature criminelle de Francis Holm dans cette affaire. Derrière cette expression se cache le fait que, comme à chaque fois qu'il a tué, Holm est allé ensuite, deux jours plus tard, à l'hôpital. Il se fait toujours hospitaliser.
C'est une des constantes. Alors oui, on parlait de quasi signature. Moi, je parlerais de signature et je l'assume. Il y a tout un tas de. Ouais. Il n'y a rien dans le meurtre de Montigny-lès-Metz que Hall ne sache pas faire ou qu'il ait jamais fait. C'est-à-dire l'acharnement, la violence inouïe. Il n'y a jamais d'armes à feu. Donc là, c'est le cas. L'acharnement, la violence inouïe, le fait qu'il se fasse hospitaliser systématiquement après les faits, le fait qu'il déshabille systématiquement les victimes partiellement ou complètement. Enfin, il y a tout un tas de constantes qu'on retrouve dans Montigny-lès-Metz, qu'on retrouve ailleurs. Et contrairement à ce qui a été dit, Holm a déjà tué avec des pierres.
Alors, on va faire une pause et ensuite on va revenir sur des révélations que vous faites dans votre livre, dans le cadre de cette contre-enquête. On l'a pas dit, mais à l'époque, Francis Holm travaille à peu près à 300 mètres des lieux du drame. Et là, il est connu d'un certain nombre de gens et vous avez retrouvé notamment une femme qui s'appelle Marjorie et qui a donné un témoignage extrêmement important sur lequel nous allons venir ensemble dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Émission spéciale sur le dossier Francis Holm dans le cadre de l'affaire du double crime de Montigny-lès-Metz. Je rappelle que le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Moselle le 31 mars prochain et on en parle avec Emmanuel Charlot qui avec Vincent Rottenburger vient de publier aux éditions Flammarion Affaire Dils Holm, la contre-enquête avec tous les éléments qui ont véritablement relancé l'histoire. Et demain donc 20h45 France 2 dans Envoyé spécial le reportage que vous allez diffuser afin que tout le monde puisse se faire une opinion en fait des enjeux du procès. Alors il faut dire aussi Emmanuel Charlot que Holm a toujours dit qu'il était là. Il a toujours dit qu'il n'avait pas tué les enfants. Et puis un jour il a ajouté quelque chose. Il dit mais moi je sais qui a tué et il a désigné quelqu'un.
Alors, il a désigné quelqu'un, un monsieur qui s'appelle Henri Leclerc, qui était la première personne à avoir avoué le double meurtre de Montigny-lès-Metz, parce qu'il faut rappeler
avant les aveux de Patrick Dils.
Avant les aveux de Patrick Dils, Dils, faut savoir qu'ils ont été trois à avoir avoué. Donc, Henri Leclerc est le premier. Donc, il le désigne effectivement comme étant l'auteur du double meurtre de Montigny-lès-Metz.
Et il dit, mais je le connais pas, je l'ai vu, mais je le connais pas. Je le connais vaguement comme ça de vue parce que je travaille par là, quoi.
Alors, il faut savoir que Monsieur Leclerc a été considéré comme innocent par la justice, malgré le fait qu'il y ait quand même un certain nombre d'éléments troublants qui le concernent. On peut pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais voilà. Et en fait, ce qui s'est passé assez récemment, c'est que j'ai reçu les confidences d'un magistrat très proche de ceux qui ont renvoyé Francis Holm devant la cour d'assises de la Moselle et qui m'ont mis hors de cause Henri Leclerc. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui vous manquait pour envoyer Monsieur Leclerc devant les assises? Et il m'a répondu, établir qu'il se connaissait, ce que la justice n'a jamais pu faire. Or, moi, j'ai recueilli deux témoignages qui démontrent le contraire. Notamment celui de Marjorie Thirier, dont on va peut-être parler maintenant. Oui,
alors voilà, Marjorie Thirier, elle travaille dans la petite entreprise où Holm travaille. C'est une tuilerie, je crois, non?
Une entreprise de couverture.
Couverture de toit. Et alors, elle va voir arriver un jour Holm avec quelqu'un qu'elle va identifié, et elle le fait d'ailleurs devant vos caméras, à Monsieur Leclerc.
Alors, en fait, l'histoire, c'est... donc, elle travaille effectivement à 300 mètres, elle est secrétaire de direction. Francis Holm est très agité dans la semaine qui suit le double meurtre de Montigny, à tel point qu'il s'enivre sur les chantiers, qu'il jette des tuiles sur les clients, tout le monde se plaint de son comportement.
Et il va l'agresser, elle.
Et donc, Marjorie Thirier le convoque pour lui signifier son licenciement pour faute grave. Il va l'agresser, commencer à l'étrangler. Il va falloir l'intervention de chefs de chantier pour lui sauver la vie, parce que voilà. Et il revient quelques jours plus tard, accompagné d'un homme pour se faire
payer en fait ce qu'on reste lui devoir.
Voilà, son solde tout compte, les documents administratifs, etc. Ouais. Donc, avec un homme qui se fait passer, qui se dit être son oncle.
Présente comme son oncle.
Ouais. Et en fait, l'oncle en question, Marjorie Thirier, n'avait pas été interrogée à l'époque des faits, en 86. Elle va être interrogée en 2000 par les gendarmes qui vont dire à Marjorie, mais c'était pas l'oncle de Francis Holm qui l'accompagnait. Elle, très surprise, elle comprend pas trop. Les gendarmes lui demandent d'établir un portrait robot de la personne en question.
Donc 14 ans après.
Et puis on en reste là, mais les gendarmes n'ont pas présenté de photos de personnes qui potentiellement auraient pu l'accompagner et se faire passer pour son oncle. Moi, je lui ai présenté des photos de Monsieur Leclerc à l'époque des faits et le reconnaît formellement.
Voilà, et vous comparez évidemment ces photos avec le portrait robot qui avait été établi à l'époque. Donc ça sera également un axe important du procès qui vient.
Je ne sais pas encore, je peux pas préjuger de ce que le procès va se dérouler, mais en tout cas, c'est des informations importantes à donner à la justice.
Il y a une question que je voulais vous poser aussi, parce que, en fait, on s'est interrogé pour savoir, et d'ailleurs, Holm l'a dit lui-même, je crois, je suis déjà condamné pour 9 meurtres, pourquoi je n'avouerais pas celui-là? Et un certain nombre de gens, enfin j'ai lu ça en tout cas, émettent l'hypothèse que s'il n'avoue pas clairement le meurtre des deux enfants, c'est pour préserver ses relations avec sa sœur, qui est la seule, je crois, de sa famille à venir le voir en prison. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument?
Moi, je pense que c'est...
Qui expliquerait le silence?
Bon, déjà, faut savoir que Francis Holm a avoué un seul meurtre sur les 9. Qu'il a, où il fait des aveux à la Holm, comme dit Jean-François Abgral, il est là, je suis là, j'ai tout vu, mais j'ai rien fait. S'il l'avoue pas, c'est déjà parce qu'il a pas l'habitude d'avouer, mais ce que vous venez de dire, oui, ça en rajoute au fait qu'il avoue pas. C'est-à-dire que, moi, j'ai rencontré Christine Holm, sa sœur. M'a dit c'est des conneries de journaliste. Sauf que quand je rencontre son ex-mari, Monsieur Goncalves Florent, qui avec qui elle a eu des enfants d'ailleurs, qui rendait visite lui-même à Francis Saulme et donc avec sa femme, la sœur de Francis Saulme. J'espère être clair. Florent Goncalves était à l'époque beau-frère de Francis Saulme. Il m'a confirmé lui que effectivement, elle était plus venue le voir en prison suite au meurtre du petit Joris Viville, ne supportant pas le fait que son frère ait pu tuer un enfant. Et que il m'a effectivement confirmé, comme des psychiatres d'ailleurs, que c'était une personne enfin qui lui était très chère, c'était la personne la plus chère au monde. Son père vient plus le voir en prison, sa mère est décédée, et c'est son seul lien avec l'extérieur.
Donc, peut être une clé d'explication.
Voilà, une clé d'explication. Et moi, je suis convaincu qu'il va, il désigne Henri Leclerc, ça doit être sa ligne de défense. Je suis convaincu qu'il avouera jamais le meurtre de Montigny-les-Metz.
Alors, on va faire une dernière pause dans l'émission. On va entendre la réaction qu'a eue Patrick Diels lorsqu'il a appris que Francis Saulme allait être déféré devant une cour d'assises. Et puis, dans un instant, nous aurons en ligne et en direct Maître Pierre Gonzalez de Gaspard. C'est l'avocat, si j'ose dire, historique de Francis Saulme qui va avoir à le défendre dans le cadre de ce procès. On verra avec lui dans quel état d'esprit il aborde donc ces débats. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Avec Emmanuel Charlot, depuis le début de cette émission, on vous a donné des indications sur les éléments qui sont à la charge de Francis Saulme, en tout cas qui seront débattus au cours du procès, à la fois des constatations mais aussi des témoignages dont on a parlé. Nous allons prendre maintenant en ligne Maître Pierre Gonzalez de Gaspard, l'avocat de Francis Saulme. Bonjour Maître.
Oui, bonjour.
Alors, je sais pas si vous avez entendu toute l'émission, mais vous connaissez évidemment le dossier par cœur. Et vous connaissez aussi le travail d'Emmanuel Charlot, dont une partie avait été versée au dossier d'instruction. Quels vont être vos axes de défense, ou dans quel état d'esprit, pour vous poser une question plus large, vous abordez ce procès?
Mais écoutez, je l'aborde sereinement, puisque je constate que dans cette affaire, Francis Saulme n'a jamais avoué. Il a toujours protesté de son innocence. Et tandis que notre cher gendarme Jean-François Abgras rappelle tous ses états de service, je parle des états de service de Francis Saulme, on constate qu'il s'est même parfois, Francis Saulme, accusé de meurtre qu'il n'avait pas commis, comme vous le savez, par exemple le meurtre de M. Clément à Avignon. Donc, je dis qu'aujourd'hui, je suis serein. Nous arrivons devant la cour d'assises, alors qu'il a été interrogé 12 ou 13 fois, il n'a jamais reconnu être l'auteur de ce double crime absolument odieux.
Et vous pensez que les témoignages dont on a fait état, les faits rapportés par un certain nombre de témoins ne l'ont pas été intentionnellement?
Alors vous n'avez aucun élément matériel dans cette affaire. Vous n'avez pas d'empreinte digitale. Vous n'avez pas d'ADN. Vous n'avez absolument rien sur le plan matériel. Les pierres ont disparu, on ne sait pas où elles sont. Elles ont été décrites par Patrick Diels, elles ont été décrites par un autre dont vous avez parlé, et dont je ne prononce jamais le nom, mais dont il est évident que la présence est de plus en plus certaine dans ce dossier. Vous avez prononcé son nom, c'est pas moi, Henri Leclerc. Et je dis qu'il est absolument aberrant d'arriver devant une cour d'assises alors que plusieurs éléments parlent de ce monsieur comme étant au moins un participant, et que malgré la demande que j'ai formulée de supplément d'information le concernant, nous arrivions devant la cour d'assises alors qu'il est témoin assisté et qu'on ne sait absolument pas comment il a pu agir dans ce dossier, alors que, vous le savez, Francis Saulme et d'autres personnes l'ont vu descendre le talus, tandis que Francis Saulme, on ne l'a pas vu descendre le talus, ont vu descendre le talus ce monsieur Leclerc, ensanglanté, c'est quand même extrêmement important.
Alors, autre point, maître, vous avez évidemment rencontré votre client et vous le rencontrez régulièrement pour préparer ce procès. Il y a eu à la fois des expertises psychologiques et physiques qui ont été demandées et qui toutes se sont avérées positives. Donc, c'est quelqu'un qui peut suivre les débats et qui est dans un état physique et psychique qui est compatible avec la tenue du procès. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous a dit, Francis Holm, à propos de ce procès dont il sait qu'il va passer 3 semaines devant une cour d'assises pour ces faits?
Alors, passer 3 semaines dans une cour d'assises, je ne dirais pas qu'il en a l'habitude, mais vous savez, vous avez rappelé ce qu'il a fait.
Ouais.
Donc,
fois,
il sait ce que c'est qu'une cour d'assises.
Ouais.
Moi, j'ai rencontré un homme que je considère plus humain que lorsque je le défendais auparavant. Voilà. C'est une évolution qui, pour moi, est bénéfique. Donc, j'espère qu'il pourra non seulement faire face aux audiences de la cour d'assises, mais qu'il pourra apporter des éléments, et des éléments qui permettront, à travers les questions que nous poserons à d'autres personnes, et en particulier à celles dont nous venons de parler, et qui nous permettront peut-être d'arriver à la vérité.
Je vous remercie beaucoup, maître, et évidemment, on suivra après. Il n'est pas question de faire ici le procès, avant le procès. Évidemment, les auditeurs d'RTL entendront avec les comptes rendus de ce long procès sur l'antenne d'RTL. Je vous remercie beaucoup. Et pour terminer, je voudrais qu'on entende Patrick Dils, parce que il a passé 15 ans de sa vie derrière les barreaux, et lorsqu'il a été rendu public que la justice allait renvoyer devant une cour d'assises Francis Holm, c'était en novembre 2012, je l'avais joint par téléphone pour recueillir sa réaction. Je lui avais demandé comment il avait réagi tout de suite à cette annonce.
Très simplement, j'étais satisfait, non pas parce que c'est Francis Holm, mais tout simplement parce que la justice poursuit son travail et met tout en œuvre pour que la vérité puisse finir un jour par éclater aux yeux de tout le monde. Je pense que c'est extrêmement important, non seulement pour les familles des victimes, qui ont le droit le plus strict de savoir pourquoi on leur a volé la vie de leurs enfants, mais également pour moi, savoir pourquoi j'ai perdu 15 ans de ma vie, pourquoi on m'a volé ces 15 ans.
Mais Patrick, si je comprends bien, pour vous, il est très important de connaître également la vérité.
Bien évidemment, c'est très important pour moi, puisque, si vous voulez, dans un premier temps, on a reconnu publiquement mon innocence, à travers un acquittement à la Cour d'assises de Lyon. Ensuite, il y a eu réparation, puisque des indemnités ont été versées, c'est-à-dire reconnaître l'erreur. Mais maintenant, pour que la boucle soit complètement bouclée, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce 28 septembre 1986 et pourquoi on a enlevé la vie à ces deux enfants qui, comme moi, comme quiconque, ne souhaitaient qu'une seule chose, c'est vivre, grandir et être heureux.
Voilà, et Patrick Dils a toujours dit qu'il serait dans le public, en tout cas de ce procès prochainement. Donc on
verra. Il sera non seulement dans le public, mais il est cité comme témoin.
Ah, il est cité comme témoin,
bien sûr.
Ça je ne savais pas.
Ouais. Alors je pense que il est cité comme témoin parce que témoin oculaire, il est sorti un moment à la poubelle pour chercher ses timbres. Voilà, on va lui demander ce qu'il a fait ce jour-là. Je pense que ça va aller plus loin. Mmh. Et j'ose espérer que certains ne referont pas le procès de Patrick Dils pendant le procès de Francis Holm. Et je fais référence à certains avocats.
Quant à vous, j'ai dit que vous étiez cité, évidemment, à témoigner également au cours de ce procès. C'est sur le contenu de votre enquête?
Ben, je suppose, je sais pas. J'ai été cité par le procureur général de Metz. Je suppose que c'est là-dessus que je vais être amené à m'expliquer.
Madame Bénin, qui ouvre votre livre, qui est l'auteur de la préface de votre livre, Affaire Dils Holm, qui paraît donc chez Flammarion, sera là également. Et c'est une femme qui attend beaucoup de ce procès. Qu'est-ce qu'elle pense au-delà de l'actualité du procès? Est-ce qu'elle pense qu'on va enfin arriver à la vérité?
Elle l'espère, en tout cas. C'est une femme qui a énormément souffert, qui a vu sa vie brisée à cause de ce drame. Il y a eu des dommages collatéraux. Elle a été sous médicaments pendant des années. Elle a été heureusement soutenue par une avocate formidable du barreau de Metz, qui est maître Dominique Beaupetit, qui non seulement l'a défendue, mais en plus l'a soutenue. Et donc, elle en attend. Oui, elle veut savoir. C'est sa raison de vivre, Madame Bénin. Et celle qui s'est battue seule dans ce dossier pour qu'on tente d'approcher la vérité.
Voilà, et puis la grand-mère, je crois, Bekrich, donc de l'autre enfant sera également présente.
La grand-mère et les parents d'Alexandre.
Les parents d'Alexandre.
Bien sûr. Et je crois aussi le papa de Cyril.
Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Je renvoie donc tout le monde à ce livre dont je viens de reciter le titre, et puis aussi demain à la diffusion d'Envoyé spécial, donc de votre reportage. L'émission est terminée. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Flavie Flamand.